France Inter. Tapage non masculin, bruit excessif, boucan, vacarme. Le tapage, c'est le son qui trouble le voisinage, qui résonne dans la nuit, vous empêche de dormir. C'est le nom de votre nouveau rendez-vous musical sur France Inter. Jusqu'à 21h, on fait monter les décibels, on tend l'oreille à la nouvelle scène française. Et ce soir, une artiste qui navigue entre musique et cinéma et qui endosse dans son nouveau projet la figure du clown, c'est Marguerite Thiam. Je m'appelle Camille Diao, bienvenue dans mes oreilles.
Ta page, Camille Diao sur France Inter.
Et cette semaine, dans ta page, je reçois donc une certaine Marguerite Thiam. Vous entendez cette voix, mi-chanter, mi-parler, comme murmurer. Et ben moi, ça me ramène immédiatement à d'autres artistes. Elle, c'est la Danoise Erika de Casier, mais je pense aussi à Billie Eilish. Moi j'adore ces voix feutrées, éthérées, qui viennent nous susurrer à l'oreille, parce que je dois avouer que les démonstrations vocales, les grandes envolées du genre, bah malgré tout le respect que j'ai pour Whitney Houston, hein, c'est pas trop mon truc. Bon, vous me direz, les chanteuses qui murmurent, c'est pas tout à fait nouveau. Bette Gibbons de Portishead le faisait déjà en 94. En version beaucoup plus pop, Britney Spears en 2003. Mais malgré tout, j'ai le sentiment que ces dernières années, c'est devenu une véritable tendance. Même certains rappeurs tentent le coup. I got lots of scribes, all my niggas shies. You can roll the dice, you might lose your life. Lui, c'est 21 Savage. Mais alors, pourquoi tout le monde se met à murmurer? En faisant quelques recherches, j'ai découvert que le journal britannique The Guardian a flairé la tendance bien avant moi, dès 2017, et appelé ça la whisper pop, la pop chuchotée. Plus récemment, d'autres ont parlé de pop ASMR, du nom de cette méthode de relaxation auditive qui fait fureur sur les réseaux. Hello there. Et c'est vrai qu'il y a presque un peu d'ASMR chez Billie Eilish lorsqu'elle laisse entendre son souffle, ses lèvres, presque son cœur qui bat. Des sons très subtils qu'on ne pourrait pas percevoir sans les technologies modernes. D'ailleurs, pendant des siècles, chanter doucement, c'était pas vraiment une option. Pour se faire entendre, il fallait une voix puissante. D'où le chant lyrique et ses techniques de projection de la voix. En fait, c'est dans les années 20, avec l'avènement du micro, de la radio et des studios, que d'autres techniques vocales se développent. L'un des premiers chanteurs à susurrer, c'est l'Américain Gene Austin. Just Molly and me, and baby makes three. Voilà, ça c'est la whisper pop version 1928. Et à l'époque, c'était révolutionnaire. Un siècle plus tard, les micros savent capter chaque bruissement, chaque vibration, et les casques audio prolongent cette sensation d'intimité, de connexion émotionnelle, un peu comme si l'artiste vous chuchotait directement à l'oreille. Mais la technique n'explique pas tout, et moi je pense que l'essor du murmure en chanson raconte aussi notre époque, qui désormais, et c'est très nouveau, valorise la vulnérabilité. La Gen Z se filme en pleurs sur TikTok. Et elle attend des artistes qu'ils exposent leurs failles, leurs doutes, leurs angoisses. Et ça, ça se traduit dans l'usage qui est fait de la voix. Chacun a désormais le droit d'être vulnérable. C'est une libération, mais c'est aussi parfois une injonction, voire même une formule marketing. Alors pas chez mon invité, pas chez Marguerite Thiam qui a le murmure instinctif, tout comme la sainte patronne de la whisper pop, Billie Eilish, qu'on écoute tout de suite sur France Inter. I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you
break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you. Then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology. For making me feel I could kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me. Then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for
Billie Eilish sur France Inter. C'était l'amour de ma vie pour ouvrir cette heure de tapage en compagnie de Marguerite Thiam. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir.
Et bienvenue à toi.
Merci beaucoup.
Alors, je suis très heureuse de ce choix de chanson d'ouverture puisque j'ai l'impression que tu la connais absolument par cœur.
Je la connais par cœur, j'avoue.
J'ai vu chantonner.
J'ai écouté tout l'album en boucle comme littéralement le monde entier.
Oui, c'est vrai, le monde entier l'a écouté cet album. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben faites-le, vous me remercierez. Marguerite, si je te dis Whisper Pop et Pop ASMR, est-ce que ça te parle? Tu te retrouves là-dedans?
Absolument, enfin ça me parle vis-à-vis de ce que toi t'as raconté. En revanche, je n'avais jamais entendu le terme Whisper Pop.
Je l'ai découvert aussi en écrivant cette chronique.
Donc ça me parle absolument. Après, je sais pas si c'est forcément un choix de ma part. En tout cas, évidemment, il y a une forme de vulnérabilité, de pudeur et tout. Mais je pense sincèrement que je ne suis surtout pas capable, en fait, de chanter autrement, de chanter comme Whitney Houston, en fait.
Je disais que chez toi, le murmure est très instinctif, que ouais. c'est pas une posture, et c'est vrai qu'on s'en rend compte en écoutant tes textes. Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que chanter en murmurant, c'est pas aussi une autre façon de crier parfois?
Bah ça, c'est super intéressant, mais c'est quelque chose qui crée beaucoup le débat, j'ai quand même l'impression. J'ai l'impression que toi t'es quelqu'un qui est assez ouverte sur le sujet. Moi c'est une façon de raconter mes histoires, je me vois pas les raconter autrement. Je pense que les cris ils sont dans les mots, pas forcément dans la façon dont on va poser sa voix. Et en même temps, je sais que on considère parfois que c'est pas de la chanson aussi, que la chanson est forcément la prestation vocale. Voilà.
On t'a déjà dit, Marguerite, là, il faut que tu donnes plus de voix, que tu chantes
tout
plus
le temps,
fort.
Tout le temps. Bah, j'ai vu beaucoup de profs de chant, ça m'a beaucoup traumatisé des cours de chant parce que moi, c'est comme ça que je fais mes chansons, je me vois pas les faire autrement et soudainement, on m'a demandé de chanter vraiment différemment. Et on me cite souvent Whitney Houston.
C'est vrai.
En mode, mais je vais pas faire Whitney Houston, quel rapport?
Je lisais que l'année dernière, t'as enregistré un morceau avec le groupe Feu Chatterton,
ouais.
Et qu'en studio, ils t'avaient poussé à sortir du murmure, à crier presque.
Alors
au
là,
micro.
C'était vraiment différent, et c'est pour ça que je les remercie. Ça a vraiment débloqué quelque chose en moi. C'est-à-dire que eux, ils ont vraiment accepté et accueilli la façon dont moi je posais ma voix. En revanche, pour certains moments du morceau, ils m'ont fait crier des donc il y a des moi qui crie très 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 fort, c'est pas du tout chanté, c'est vraiment juste du cri qu'on a ajouté dans le morceau et qui donne un truc encore plus dramatique en fait.
Et ça a provoqué quelque chose en toi ?
Ça a changé ma perception du live, où avant j'étais vraiment je murmurais, mais en plus je me cachais. Bon, j'allais dire, je me cachais derrière une casquette. Mais
j'étais avec une casquette sur la tête.
Mais je me mettais une casquette, truc. J'étais tellement timide et ça m'a quand même débloqué. Ça m'a ouvert le corps et j'adore maintenant crier sur scène.
Il y a 2 ans, tu disais en interview, je me considère pas comme une chanteuse. Est-ce que ça a changé depuis ?
Un peu. Ça a un peu changé parce que maintenant j'ai moins peur de chanter, mais. Tu vois, si là, on est sur une plage et qu'il y a un mec qui sort une guitare, je ne vais pas être la personne qui chante avec lui. Moi, je pense que j'ai envie de raconter des histoires. Ça passe par la musique, ça passe par plein d'autres choses comme le cinéma ou l'écriture. Mais c'est vrai que la voix m'accompagne pour raconter mes histoires, mais pas la prestation, forcément.
Alors, je prends le temps de te présenter quand même, Marguerite. Donc, tu as 25 ans, si je ne me trompe pas.
Oui,
ouais. Tu as fait donc tes premières armes au cinéma en tant que comédienne. On t'a découverte notamment en 2022 dans un film qui s'appelle Grand Paris. Mmh. Puis en tant que réalisatrice aussi. Mais ta deuxième vie, c'est donc la musique, quelque part entre chansons, pop, influence rap et électronique. Tu viens de sortir ton deuxième projet. C'est un recueil de 4 chansons intitulé Pierrot. Pierrot comme le clown de la Commedia dell'arte. Et on va en parler. Mais ce que je te propose, c'est de te présenter tout de suite en musique. Ton pianiste est déjà en place, tu viens de le rejoindre. Est-ce que tu es prête, Marguerite ?
Complètement prête.
Eh bien, vous écoutez Tapage. Et c'est Marguerite Thiam qui chante Pierrot le Fou, une version acoustique, inédite, concoctée spécialement pour vous.
Seule, t'es tellement seule. Tu pensais que j'ai chaud sans toi. Bah mange ton seum. Il est drôle, ton rapport aux autres. Tu n'aimes que les gens sur qui tu peux garder le contrôle. Regarde à quel point t'es mauvais. Quand une femme n'est plus ton objet, ton empathie paraît si lointaine. Qu'est-ce que tu crains d'elle ? À quoi bon te souhaiter du mal ? Tu sais si bien te le faire toi-même. Au fond, t'aimes vraiment tes problèmes. Tu fais toujours tout pour qu'ils reviennent. Encore un homme qui refuse de pleurer, qui cache à quel point il s'en veut, comme si personne ne s'en apercevait. Tellement d'efforts pour étouffer tes secrets. Ton cœur est rempli de regrets, obligé de bomber le torse. Respire, respire, respire. Ça va bien se passer. Respire, respire, respire. Ça va bien se passer. Respire, respire, respire. Ça va bien se passer. Respire. Obligé de bomber le torse. Obsédé par ton cardio. Est-ce que ton talon s'essouffle? Ta froideur te rend moins beau. Souris un peu, tu t'écroules. Souris un peu, tu t'écroules. Ouais, je Pierrot le fou. Pourquoi t'as autant les boules? Prends la vie à la cool. J'sais pas moi, fais un tour, fume un joint, fais l'amour. Encore un homme qui refuse de pleurer, qui cache à quel point il s'en veut, comme si personne ne s'en apercevait. Tellement d'efforts pour étouffer tes secrets. Ton cœur est rempli de regrets, obligé de bomber le torse. Respire, 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 ça va bien se passer. Respire, 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 ça va bien se passer. Respire, 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 ça va bien se passer. Respire, obligé de bomber le torse. Respire, 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 ça va bien se passer. Respire, respire. Respire, ça va bien se passer. Respire, 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 ça va bien se passer. Respire.
Marguerite Thiam, en live, accompagné de Maxime Daoud au piano. C'était Pierrot le Fou, que vous retrouvez en version studio sur son EP Pierrot.
Tapage. Camille Diao. Sur France Inter.
Merci Marguerite.
De rien, putain, de rien.
C'était très beau.
Merci, c'est gentil.
C'était donc le morceau d'ouverture de ton nouveau projet. Et il y a de la colère dans ce titre. Je te cite, t'es tellement seule, bah mange ton seum.
On trouvait ça cool d'arriver en retour de paix avec cette première phrase. Première phrase, c'est ça.
Elle vient d'où cette colère ?
Ça vient de la colère de... En vrai, ce morceau, il a été écrit pour une personne en particulier, que évidemment je ne citerai pas, qui est un homme quelconque avec qui j'étais proche et qui m'a un peu déçue. Mais finalement, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'hommes qui étaient un peu des pierrots, quoi. Donc ce morceau est devenu bien plus large que ce que son but premier, quoi.
Oui, en fait, d'une certaine façon, tu t'adresses à tous les mecs un peu toxiques qui...
Ouais, mais c'est plus vicieux encore que toxique. Il y a quelque chose de... Parce qu'il y a beaucoup de colère dans le morceau, mais il y a aussi de la tristesse, en vrai. Parce que c'est des gens que j'ai aimés, c'est des gens qui ont partagé ma vie et qui m'ont déçue à certains endroits. Et qui sont un peu enfermés dans leur personnage d'homme et qui n'arrivent pas à... accéder à leur émotion, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est ceux qui bombent le torse pour mieux refouler ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et t'as un conseil pour eux. Tu leur dis, respire, ça va bien se passer. Mmh. Et moi, cette phrase, elle m'a fait rire. Parce qu'elle m'a rappelé une interview devenue virale et qui en a énervé plus d'une.
Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer. Il va bien se passer.
Non, mais
il y a
30% de baisse. Attendez, pause. Oh, je vous demande pardon. Comment
ça va bien se passer, madame. Vous allez voir.
C'était donc Gérald Darmanin en 2022 face à la journaliste Apolline de Malherbe. Est-ce que la référence était inconsciente?
Non, absolument consciente. Ouais. Absolument consciente. Bah, en fait, on a eu ce truc de obligé de bomber le torse. On voulait que respire. Et puis après, on s'est souvenu de cette interview. On s'est dit respire, ça va bien se passer. On trouvait. Au début, on n'a pas trop osé. On n'était pas sûr de nous. On s'est dit que ça pouvait être mal reçu. Et en fait, le fait que ce soit une femme qui dise ça à un homme, on trouvait le truc assez marrant. Fallait avoir la ref. Quoi.
Exactement. En fait, tu prends cette expression qui est assez misogyne parce qu'elle renvoie les femmes à une forme d'hystérie et tu la retournes contre les garçons.
Exactement. J'en suis très très heureuse.
Alors, je tiens à préciser que tu m'as demandé d'un air un peu inquiet avant l'interview, mais tu vas pas me parler de politique quand même. Est-ce que ça allait?
Ça va. Non, mais si. En fait, on peut parler de politique, bien sûr, mais bon, c'est je sais pas, c'est le stress, le truc. J'ai peur de dire des conneries. J'ai pas envie.
Ça n'ira pas plus loin que cette citation de Gérald Darmanin. Marguerite, ce titre que tu viens de nous interpréter, donc il s'appelle Pierrot le Fou, et dans ce titre, il y a une double référence. Il y a à la fois le cinéma et le fameux film de Jean-Luc Godard avec Jean-Paul Belmondo. Et puis, il y a le clown, le Pierrot, donc ce personnage tiré de la Commedia dell'arte, qui est en quelque sorte le fil rouge de ton projet. Je commence par ce sujet-là. Pourquoi la figure du clown ?
Il y a eu tellement de raisons. En fait, le clown, c'est une façon... Le clown qui est le masque en soi, c'est une façon aussi de se cacher, J'avais l'impression qu'en m'habillant en clown, en me transformant en clown, j'allais avoir la capacité de devenir quelqu'un d'autre et donc du coup de lâcher prise, de sortir des violences que je peux raconter dans les morceaux. Je me suis rendu compte avec le temps qu'en fait pas du tout, parce qu'il faut aussi assumer le personnage du clown. Donc finalement, je me suis un peu mis des bâtons dans les roues. Mais aussi, le clown, il est aussi la figure de la tristesse, c'est aussi politique quand même. Donc, y a eu plein de choses qui m'ont nourri sur l'envie de faire ce clown. Il y a eu aussi un truc aussi esthétique, l'envie de se transformer, de créer un nouveau personnage pour pouvoir raconter mes histoires. Parce qu'en fait, sur le premier EP, j'ai raconté des choses très très intimes et ça m'a aussi énormément violentée de devoir les défendre après les morceaux, les chanter en boucle, qu'on pose des questions. Le fait de mettre ce clown, j'ai espéré, je crois, que ça puisse être moins violent pour moi de chanter mes chansons, ce qui n'est absolument pas le cas.
Et pourquoi est-ce que c'est un peu lourd à porter ce personnage-là ?
Parce qu'il est chargé, il est chargé de plein de choses. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'assez excentrique dans le fait d'utiliser le clown, alors qu'en fait, je trouve qu'en fait on voit toute ma vulnérabilité dans le choix du clown. Il est presque que tristesse. J'ai l'impression que en fait je me suis encore plus mise à nu en utilisant le personnage du clown, puisque c'est un personnage assez connu dont les gens connaissent la signification, enfin qui a été réutilisé plein de fois avec Chaplin, avec plein de choses, et que du coup les gens savent, et du coup les gens savent qu'en fait j'essaie de cacher certaines émotions, donc voilà.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que le clown, il est sur une ligne de crête, et ça correspond bien à ta musique. Il est tout le temps entre le rire et les larmes, avec une espèce d'étrangeté un peu inquiétante. Et moi, je trouve que dans tes clips, en tout cas, je parle pas des morceaux, mais t'as sorti deux clips dans lesquels tu revais ce visage, ce masque du clown. Je trouve que tu le tires quand même. Et puis sur la pochette aussi, d'ailleurs, on te voit maquillée avec une sorte d'œil au beurre noir et la bouche déformée par une grimace. Je trouve que tu le tires du côté du Joker un peu.
Bah, en fait, c'est ça. Mais c'est que, par exemple, la cover, on était un peu attaché au fait que le maquillage soit un peu dégueu, que ça coule, que ça. Parce que c'est ça aussi, il y a tellement de choses en moi, tellement de choses qui ça déborde de partout. Et après, les clips, je sais pas si on a réussi à le faire, mais en tout cas, l'intention, c'était que le premier clip de Pierrot le Fou, on joue un peu la carte de la folie, je découpe une tête, je deviens amie avec cette tête, je deviens folle. Et beaucoup plus la solitude dans le deuxième, où j'erre dans les rues de Paris, en clown. Et en fait, ça montre aussi ces deux aspects-là. Il y a un peu une forme de schizophrénie dans tout ça, je reconnais.
Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'endosser un personnage comme le clown, bah, finalement, ça rejoint ton travail d'actrice, de comédienne. Et la question que je me suis posée, c'est est-ce que, puisque tu continues à travailler, enfin à fabriquer de l'image, que tu fais à la fois de la musique et du cinéma, est-ce que ta pratique musicale, qui est arrivée dans un second temps, elle a impacté, changé ton approche du cinéma?
Déjà, je me suis quand même beaucoup plus concentrée sur la musique, faut dire. Et à part la réalisation que je continue d'écrire, etc. Mais en tout cas, à un moment, j'ai tourné une série Netflix qui m'a un peu, j'ai pas vraiment passé un très bon moment. Et en sortant de ça, je me suis dit que je voulais plus jamais être actrice, que c'était terminé, qu'en fait, j'aimais pas du tout raconter les histoires des autres. Et maintenant que je me développe ce truc-là de clown, de personnage, je me reconnecte à des sensations de jeu, je me dis qu'en fait, j'ai envie de me reglisser un peu vers le fait d'être actrice parce que j'ai réussi à me reconnecter à ça, quoi. Donc, quand même.
Donc, la musique te permet de te réconcilier avec un art que tu aimes, même si t'as eu des
ouais, un art que j'avais voulu quitter totalement, ouais. En fait.
T'as réalisé toi-même les deux clips dont on parlait, et celui de Pierrot le Fou en particulier, il est truffé de références cinématographiques. Ouais. On va écouter les toutes premières secondes du clip.
Seul, totalement seul. Tu pensais que j'échouerais sans toi. Pas mange ton sang.
Et là voilà la fameuse tête coupée au sabre façon Kill Bill.
Pour info, c'est le bruit de Fruit Ninja.
le jeu sur smartphone, très drôle. Ouais. Bah, mis sur cette image d'une femme qui porte un sabre et qui coupe la tête d'un homme, incarné par Vasily Schneider, ça sonne moins rigolo.
Ouais,
tout
mais
d'un
c'est
coup.
Parce que le bruit dans Fruit Ninja, il est vraiment très bourrin, très très crado, et on est bien le côté absurde de ce bruit.
Donc moi, je t'amène sur Kill Bill et tu me réponds de Fruit Ninja.
Voilà,
quoi.
Non, mais il fallait que je le dise. Je pouvais pas ne pas le dire.
Il y a une autre référence que j'ai cru voir. En tout cas, tu vas me le confirmer ou pas. C'est le film Funny Games de Michael Haneke.
C'est mon film préféré.
C'est mon film préféré
numéro 1. C'est mon film préféré. Et si je peux être 100% transparente avec toi, c'est-à-dire que c'est un film qui me nourrit dans tout. J'ai envie de copier ce film, en fait. Et pour le coup, très sincèrement, j'ai pas voulu reprendre Funny Games. Si tu l'as ressenti, c'est parce qu'il est tout le temps dans ma tête. Et c'est à quel moment que tu l'as vu, ça?
Alors, je l'ai vu dans plein... Alors, d'abord, je fais un peu le pitch pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le film. Moi, j'ai été traumatisée par ce film à l'adolescence. C'est l'histoire d'un couple bourgeois qui est pris en otage dans leur propre maison par deux garçons qui ont une apparence très polie, très propre sur eux, mais qui vont se livrer à une véritable torture psychologique. Et alors, j'ai vu Funny Games notamment dans une balle de tennis. Dans ton clip, dans le film, c'est une balle de golf plutôt. Ouais. Je l'ai vu aussi dans le carton de générique, puisque tu as intégré un générique de fin et même, enfin voilà, des cartons de début qui sont noirs avec ces lettres rouges. Et je suis allée chercher après. C'est la même esthétique que Funny Games.
Bah alors déjà, Haneke, il est très très précis sur ses génériques. Moi, c'est une référence ultime. Dans Caché, par exemple, il fait un générique sur un plan fixe d'une rue et le générique défile très très lentement et remplit le cadre petit à petit. C'est assez magique. Donc Haneke est vraiment une référence de générique. En l'occurrence, c'est marrant que tu parles de la balle de golf parce que de base, je voulais faire un plan de moi avec la balle de golf. On n'a pas trouvé de balle de golf. C'était un peu last minute. Et le tennis, parce que c'est ma passion, j'ai mis le tennis. Mais donc, c'était totalement inconscient et c'est fou que t'aies pu voir ça dans ce clip, parce que c'est vraiment mon film préféré, j'ai l'affiche chez moi. C'est Peter and Paul, ils s'appellent les mecs dans le film.
Ah, et bah, je suis contente de pas m'être trompée, tu vois, et ça m'a donné envie de le revoir maintenant que je suis adulte, puisque j'ai jamais osé le re-regarder, ce film.
Tu sais qu'ils ont fait une version américaine.
Alors, c'est la version américaine que j'ai vue, j'ai pas vu la version originale. Parce que c'est auto-remake son propre film. On va continuer à en discuter, Marguerite. Vous écoutez Tapage, on est avec Marguerite Thiam jusqu'à 21h. Et on va écouter tout de suite un autre extrait de ton EP qui s'ouvre avec la voix de ton frère.
Rappelle-moi quand tu peux. Si t'as la flemme, j'ai pas forcé. T'inquiète ma sœur, je connais le jeu. On fait semblant d'être débordés. Pour pas s'avouer dans les yeux
qu'on est marqué par les mêmes blessures. Ton regard me rappelle à quel point j'étais perdu. On a les mots pour se salir. On connaît nos chagrins. C'est si dur de te haïr. Tu peux mourir demain. À quoi bon me battre si c'est pour te perdre? Rappelle-moi s'il te plaît.
Pourquoi tu m'en veux? Ouais, pourquoi tu m'en veux? Faut que tu me crois, je fais de mon mieux. Donc pourquoi tu m'en veux? Pourquoi tu m'en veux? Ouais, pourquoi tu m'en veux? Faut que tu me crois, je fais de mon mieux. Donc pourquoi tu m'en veux?
Si je t'en voulais, c'est que je m'en voulais.
C'est que je m'en voulais.
Je t'ai accusé d'être absent. Comme pour dire que j'avais besoin de ton aide.
Certains mensonges nous arrangent.
Vu que la vérité fait trop mal.
Pourquoi tout prend l'apparence de la colère de nos parents?
Même si on saigne, suffit pas d'un pansement. Seul l'amour peut nous sauver. Quand on chantait sur scène, je me revoyais enfant. On le vit, on en rêvait.
Et je déteste qu'on se fâche. J'ai voulu bien faire, peut-être trop bien faire. Faites que le temps me soulage, que ma colère se décourage. Pourquoi tu m'en veux? Ouais, pourquoi tu m'en veux?
Pourquoi tu m'en veux? C'était Marguerite Thiam sur France Inter, en duo avec un certain Nathan Thiam. Comme son nom l'indique, Marguerite, c'est ton frère.
Absolument.
Je sais que vous avez une relation particulière, puisque vous êtes non seulement frère et sœur, mais vous collaborez également artistiquement. J'ai lu que c'était lui qui t'avait poussé à faire de la musique.
Absolument, ouais. C'est lui qui fait de la musique à la base, en fait. Lui, c'est vraiment sa passion première. Et on est ados, il est dans sa chambre enfermé à faire de la musique tout le temps. Je ne sais même pas ce que c'est que de faire de la musique. Et puis un matin, il vient dans le salon avec ma mère et il nous fait écouter un morceau. Et ce que j'ai ressenti à ce moment-là, la magie de me dire, mais attends, pendant tout ce temps, il a créé un morceau tout seul dans sa chambre. Et à partir de là, bah, j'ai été fascinée, forcément, c'était mon grand frère. Et petit à petit, bah, il a commencé à s'ouvrir un peu à moi, à me proposer de me faire essayer, et le truc est parti un peu en cacahuète, quoi. Je suis chez France Inter.
Tu disais en interview, mon frère, c'est la personne qui m'a fait découvrir ce que pouvait être le talent.
Putain, j'ai dit ça.
Et tu disais, ça va lui faire plaisir.
Ouais, tu m'étonnes, ça va lui faire plaisir. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un de, effectivement, très très talentueux, qui a sa sensibilité, qui est autodidacte. J'admirais ce truc-là, le fait de pas connaître et d'apprendre. Et quand il a, par exemple, moi je suis nulle en logiciel, Logic Pro, tous ces trucs-là pour faire de la musique. Et lui, quand il a pas une réponse, bah il va la chercher tout seul. Il a pas peur de l'inconnu. Alors que moi, tout ce qui est électronique, c'est vrai que ça m'effraie un peu. Et lui, il a eu envie, il l'a fait, et c'est vrai que j'ai beaucoup admiré ça.
Pourtant, ce qu'on comprend dans ce morceau-là, c'est que cette relation, elle n'est pas simple tous les jours.
Ah non, pas du tout, non. Ouais, sujet tabou, c'est compliqué d'être frère et sœur. C'est compliqué d'être frère et sœur déjà de base, et puis après arrive le moment où on travaille ensemble. Il y a aussi l'enfance qu'on vit, chacun la ressent différemment, chacun a des douleurs à certains endroits, et je pense que là où ça a été, où c'est compliqué, c'est que on a des violences qu'on place pas au même endroit, et du coup on n'arrive pas forcément à s'entendre sur ce qu'on a pu vivre. Il m'en veut sur certaines choses, je lui en veux sur d'autres, et du coup ça crée des morceaux, mais les problèmes existent encore, quoi. C'est compliqué. Je sais pas quoi dire, c'est un peu compliqué, ouais.
L'autre phrase qui m'a interpellée dans ce morceau, c'est « Quand on chantait sur scène, je nous revoyais enfants, on en rêvait, on le vit. » Et moi, j'avais envie d'entendre la petite Marguerite Thiam quand elle était toute petite et qu'elle rêvait de chanter sur scène. Cette vidéo, tu l'as postée récemment sur Instagram. Ouais. T'avais quel âge ?
J'avais 8 ans. Putain, terrible. 8 ans, ouais. 8 ou 9 ans, je pense. C'était les débuts des iMac, tu vois. Il y avait Photobooth. Et avec mon frère, justement, on faisait des vidéos. On jouait la comédie, on faisait plein de trucs. Et puis quand il n'était pas là et que j'étais toute seule à la maison, je mettais karaoké, Lady Gaga, Justin Bieber, Tété, enfin tout. Et je chantais, quoi. Et je regardais la vidéo et j'étais vraiment persuadée que j'allais finir...
Dans le studio de France Inter.
Voilà, en fait, j'avais raison.
C'est intéressant parce que tu disais tout à l'heure, en début d'interview, que quand t'es sur scène, t'es timide, tu te caches derrière ta casquette. Et en voyant cette vidéo, je me suis dit, bah en fait, la petite Marguerite, elle a toujours eu ce truc-là d'aspirer à.
En fait, la casquette et la timidité, c'était vraiment au début. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux pas considérer que je sois timide sur scène. C'est vraiment un endroit. Hors du temps pour moi, c'est mon endroit préféré sur Terre presque. Mais je pense que là où j'étais timide, c'était de chanter, quoi. Chanter, c'est quand même... c'est vraiment se mettre à nu à 100%, quoi. Pour moi, monter toute nue sur une scène ou chanter, c'est vraiment la même chose, en fait. J'ai l'impression que c'était aussi difficile pour moi. Donc, j'ai réussi à traverser ça. Mais quand j'étais petite, je pense qu'il y avait un besoin d'attention aussi, en fait. Je voulais chanter, je voulais jouer à la comédie, je voulais être championne de tennis, je voulais faire plein de choses. Je voulais faire comme mon frère, en fait.
Voilà. Mais tu t'imaginais avoir une sorte de destin, malgré tout.
Ouais, mais bizarrement, alors que ça a toujours été en moi, comme tu vois avec ces vidéos, mais je pensais pas du tout faire de la musique dans ma vie. Je pensais pas qu'en tout cas j'aurais le courage de chanter ou de venir ici, ou de... je sais pas.
T'évoquais le tennis. Et ouais. T'as fait beaucoup de tennis quand, ouais, quand t'étais jeune.
Ouais. Ouais, c'était ma passion, je voulais être pro. Mais bon, clairement, j'ai découvert la weed.
Une erreur d'adolescente. C'est ce qui a mis fin à ta
carrière
sportive.
Non, mais pas ça. Mais quand je te dis ça, je te parle des conneries un peu d'ado. Ouais. Où j'étais en sport-études, en fait. Donc je faisais école le matin, tennis l'après-midi. Et on était une bande de copains. On se connaissait depuis qu'on était tout petits. On a fait du tennis ensemble. Puis à un moment donné, le sport, la rigueur, la compétition le week-end. T'arrives au collège, tu fais des conneries, quoi. Et j'ai fait un peu de conneries, puis après, mes parents, ils sont séparés, on a déménagé, machin. Le tennis s'est arrêté. Je fais toujours du tennis, quand même, avec mon père. On joue 2 fois par semaine. Voilà. Donc, je fais toujours du tennis, mais évidemment, je n'ai plus le niveau que j'avais avant.
C'est un regret?
C'est un énorme regret, mais je trouve le moyen aujourd'hui de continuer à développer des trucs dans le tennis, tu verras.
Et mettre des balles de tennis dans tes clips.
Exactement, c'est ma façon de...
À défaut d'avoir gagné Roland Garros.
Exactement, plus tard.
Marguerite, cette vidéo de toi, enfant, moi je la trouve d'autant plus touchante que tu dis souvent que tu détestes être adulte.
Ah ouais. Bah moi, en vrai, je pensais que mes plus gros traumatismes étaient liés à l'enfance, alors qu'en fait, ils sont liés au fait d'être devenu adulte. Je pense qu'être adulte, c'est terrible. Voilà. Je pense qu'il y a des trucs assez... Il y a des choses extraordinaires comme la curiosité, l'envie d'apprendre des nouvelles choses, le fait de rencontrer des personnes et d'être assez mature pour la comprendre, pour l'écouter, ce qu'on a moins dans l'enfance. Mais c'est tellement cliché de te dire ça, mais l'insouciance de l'enfance, en tout cas, je pensais pas que la vie était si violente, si difficile, que ce soit sur les aspects financiers, mais aussi le... être bien dans sa peau, se réveiller le matin, pas être angoissé, tout ça, j'ai découvert l'angoisse en étant adulte, c'est pas du tout un sentiment que j'avais enfant. Et tout ce que j'ai pu vivre de choses violentes enfant, en vrai, quand j'étais enfant, je me rendais pas compte, quoi, je kiffais quand même ma vie. C'est aujourd'hui, tu te prends le tout, voilà, faut voir des psys, quoi, en fait.
C'est peut-être aussi un certain stage de l'âge adulte, puisque tu as 25 ans.
Ouais,
finalement,
oui.
Finalement, c'est ce que ma mère me dit. T'es au début de ta vie d'adulte.
C'est clair. Je pense que c'est le début. Je pense qu'en fait, en parlant avec des gens quand même, j'ai l'impression que la vingtaine est une période hyper particulière. Parce que t'es plus enfant, mais en même temps, t'es pas non plus totalement un adulte accompli. T'es en recherche. Et en tout cas, moi, le sentiment qui me traverse, c'est vraiment la peur, quoi. La peur de. Imagine que ça fonctionne pas, imagine que je fais pas le bon truc, comment je rebondis, qu'est-ce que je deviens. Comment j'avance, quoi.
On a rendez-vous dans 10 ans, même dans 5 ans, à 30 ans.
30 ans déjà, j'espère que j'angoisserai moins.
Marguerite, on a ouvert l'émission avec un live. Je te propose de continuer avec un second.
C'est parti.
Je te laisse prendre place. Tu vas nous interpréter le titre de clôture de ton projet. On a commencé par le premier, on termine par le dernier. Il s'appelle « Demain j'arrête ». Vous écoutez Marguerite Thiam en live dans le studio de France Inter.
Pourquoi toutes les bonnes choses ont une fin? Pourquoi je suis la seule à vouloir sortir? C'est quand même fou, tout ce qui me fait du bien me donne forcément envie de vomir. Rien ne peut me contrarier, vu tout ce que je me suis envoyé. Les nuages de fumée me rassurent, c'est comme si j'étais toujours accompagnée. Déjà la dernière fois, je disais que ce serait la dernière fois. 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 Mais est-ce qu'elle m'aimera si je laisse derrière moi tout ce qui m'excite le plus? Je dis demain j'arrête. Au fond je crois rien lui promettre. J'ai des réflexes d'adolescent. Tout est plus beau dans la fête. Dans la fête, toi si tu veux j'arrête. Jusqu'à la prochaine cigarette. Jusqu'à la prochaine redescente. Tout est plus beau dans la fête. Pourquoi toutes les bonnes choses ont une fin? Et les mauvaises ont un peu moins. Par amour à choisir le silence. J'en profiterai jusqu'à ce qu'elle y repense. Rien ne peut me contrarier. Elle est toujours de mon côté. Peut-être faudrait-il qu'elle s'en aille. J'aurai enfin une bonne raison d'arrêter. Déjà la dernière fois. Je disais que ce serait la dernière fois. Déjà la dernière fois. Je disais que ce serait la dernière fois. Je disais que ce serait la dernière fois. Mais est-ce qu'elle m'aimera si je reste derrière moi? J'ai dit demain j'arrête. Au fond je peux rien lui promettre. J'ai des réflexes d'adolescent. Tout est plus beau dans la fête. Dans la fête, toi si tu veux j'arrête. Jusqu'à la prochaine cigarette. Jusqu'à la prochaine redescente. Tout est plus beau dans la. J'ai dit demain j'arrête. Au fond je peux rien lui promettre. J'ai des réflexes d'adolescent. C'est plus beau dans la fête, moi si tu veux j'arrête. Jusqu'à la prochaine cigarette, jusqu'à la prochaine redescente. Tout est plus beau dans la fête.
Le studio de France Inter qui applaudit. Non, c'était dans le morceau. Retenez bien son nom, elle s'appelle Marguerite Thiam. C'était Demain j'arrête en live sur France Inter.
France Inter. Ta page.
Merci Marguerite.
De rien. Ça y est, je suis timide, je sais pas pourquoi.
On entre dans le tout dernier quart d'heure de ta page et traditionnellement, il est consacré au sens de la fête de mon invité. Et tu m'as offert une sorte de transition parfaite avec la dernière phrase du morceau. Tout est plus beau dans la fête.
Ah bah bien sûr, vu qu'on se souvient de pas grand chose. Non mais tout est plus beau dans la fête, ouais bah oui. C'était en plus simple de faire la fête quoi. Bon après c'est...
C'est une phrase qui porte une certaine mélancolie,
bien sûr,
dans ta bouche.
Bah, parce qu'il y a aussi une envie d'arrêter de faire la fête. En trouvant que tout est plus beau, en sachant pertinemment qu'en réalité c'est pas le cas, qu'en réalité la fête il y a rien de très concret, mais peut-être que c'est ce concret-là que je fuis en allant dans la fête. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, c'est ça que je raconte dans le morceau. Et en même temps, dans le côté joyeux, c'est quand même très joyeux de faire la fête. Il y a des moments assez extraordinaires. Ce qui est plus violent, c'est un peu les excès et le reste, quoi.
Oui, parce que tu l'as beaucoup raconté, donc il y a 2 ans, quand est sorti ton dernier projet, t'as beaucoup fait la fête très jeune, trop jeune et ça a souvent été synonyme d'excès.
Ouais.
Est-ce que les excès ils sont toujours là aujourd'hui? Est-ce que l'entrée dans l'âge adulte a calmé les choses?
Ouais, bah déjà évidemment il y a beaucoup de choses qui sont calmées. Et puis les excès que je racontais il y a 2 ans, ils étaient parfois même involontaires, c'est-à-dire que c'était un groupe de personnes en étant mineures qui étaient eux des adultes qui m'ont fait découvrir certaines choses qui n'étaient pas ni de mon âge ni forcément de ma volonté. Là aujourd'hui je suis quand même consciente de ce que je fais. Il y a toujours des excès dans tout, de toute façon. Après, j'ai quand même un rapport à la fête qui a changé. J'aime vraiment ça, mais je me le permets beaucoup moins, parce que ça a un impact sur mon travail, sur mon état. Et comme justement, je suis passée dans l'âge adulte et que j'ai d'autres problèmes, je vais pas m'en rajouter en faisant trop la fête.
C'est quoi faire la fête pour toi? Parce que d'une personne à l'autre, les définitions peuvent être très différentes.
Bah, c'est ça qui a évolué. C'est qu'avant, pour moi, la fête, c'était rentrer à 7h du matin, aller en club, écouter de la techno jusqu'à pas d'heure. Aujourd'hui, faire la fête, c'est faire un bon dîner chez moi avec du bon vin et après, à partir de 23h, quand le dîner est fini, écouter un peu de musique, Esther Phillips, tu vois, par exemple. Voilà, la fête a une autre saveur. Et puis la fête, elle est aussi parfois dans des moments qui sont pas forcément avec de l'alcool ou autre. Il y a des moments de fête, des moments de joie. Par exemple, avec mon amoureuse, parfois on s'accorde un vendredi soir où on se dit on regarde une bonne petite connerie ce soir, un truc léger. Et pour moi, c'est vraiment une fête aussi. Et ça m'excite plus de vivre ce moment que d'aller en soirée, je ne sais où.
Là, il y a un sujet que tu abordes assez frontalement dans tes chansons, c'est la question de la drogue, qui ramène une tristesse dans la fête. Et je voulais écouter un extrait de ton précédent projet.
Quand vient la montée de MDMA, on devient tous les mêmes. Ouais, ça ferme la MA. MA. MA.
Quand vient la montée de MDMA, on devient tous les mêmes. Je trouve que c'est une phrase qui est d'une très grande honnêteté parce que c'est des choses qui sont très peu dites, finalement.
Personnellement, toutes les fois où j'ai pris de la drogue, clairement, je me suis vraiment sentie un peu comme une merde, excusez-moi le terme. Et pendant le moment où je le prends, même s'il y a des moments euphoriques et tout, et forcément les moments d'après. Et du coup, dans ce morceau, on a voulu être très brut et pas romantiser quelque chose et dire en fait, on devient tous les mêmes. Genre, on est vraiment tous misérables. C'est misérable. Et c'est pas pour porter un jugement sur les gens qui consomment de la drogue. C'est juste pour. Je pense que la drogue, les gens qui en consomment, en tout cas, ça raconte quand même une profonde tristesse. Je crois pas qu'il y ait que de la drogue joyeuse et que les gens soient. Je pense que les gens heureux, ils sont tranquilles à la campagne, ils bouffent des légumes qu'ils ont fait pousser eux-mêmes. Enfin, c'est le bonheur, c'est ça le bonheur. C'est mon rêve.
Mais c'est des choses qui sont pas forcément simples à regarder en face et pas forcément simples à mettre en chanson. Marguerite, je t'ai demandé de venir avec un morceau du samedi soir.
Absolument. Ah bah là,
un titre pour nous faire danser, pour faire monter la température, une espèce de drogue légale finalement.
Finalement, ouais.
Le titre que t'as choisi, il est signé The Dare, qui est un producteur américain. Collaborateur de Charlie XCX. Ce que je te propose, c'est qu'on l'écoute et qu'on en parle juste après.
Sex, it is the reason why it happens all the time. You might even like it a little bit. Sex, it doesn't hurt to try. Sometimes the hurting's why. You might even cry just a little bit. Sex, I want to turn you on and then I want you gone. You might even hate me a little bit. Sex, I want to call your mom and tell her you're the bomb. I might even see if she's into it. Sex, to me, it's just a mystery and a lie we tell. Together we can prove it. Sex, to her, it's just a bad word. You don't understand, but you don't need to do it.
c'est The Dare, le choix de Marguerite Thiam pour votre samedi soir. Alors pourquoi t'as choisi ce morceau?
Parce que je l'adore, parce que pour moi c'est vraiment, si on parle vraiment de la fête là, la fête concrète, pour moi ça c'est la fête. Parce qu'à la fois c'est pas non plus trop dark, c'est pas trop électro, tu vois, ça reste accessible, comme on se disait, il y a du rock, il y a des synthés un peu, enfin il y a un truc qui est quand même, je trouve, assez accessible, presque marrant. C'est ça que j'aime bien, genre sexe, c'est très gimmick. Je pense que ma mère, ça peut lui plaire, en même temps mes potes, en même temps, voilà, il y a un... C'est une fête générale, c'est une fête pour tout le monde.
Il y a un petit côté nostalgie années 2000 aussi dans ce morceau-là.
Carrément.
T'écoutais ce... Enfin, je te posais la question, t'étais quand même très petite dans les années 2000. Mais ce genre de musique...
Je suis née dans les années 2000, je suis l'année 2000. Moi, j'avoue, dans les années 2000, j'écoutais genre Willie Denzey, Amel Bent... J'écoutais pas forcément l'électro. C'était quoi les trucs électro? La bourgeoisie, là.
C'est beau, la bourgeoisie. Voilà. Helmut Fritz, tout ça aussi.
Ah oui.
Il y a un petit côté Helmut Fritz dans ce morceau.
Franchement, faisons des
c'est
raccourcis.
C'est pas faux. Écoute, merci pour ce titre et pour ce moment passé ensemble.
Merci à toi. C'était super.
Ton nom, c'est Marguerite Thiam. Ton projet s'appelle Pierrot. Deux concerts à venir le 27 novembre, juste à côté de Grenoble, à Fontaine. Et le lendemain, le 28 novembre, chez moi, à Dijon, à La Vapeur. Je le précise, j'allais beaucoup à La Vapeur quand j'étais jeune. C'est là-bas que j'ai grandi. Pas d'autres dates à venir pour l'instant?
On t'en dira plus tard.
On te suit sur les réseaux pour en savoir plus. Merci Marguerite.
Bah merci à toi, c'était un plaisir.
Et à très bientôt.
À très bientôt.
Avant de nous quitter, je vous propose de boucler la boucle. On évoquait Feu Chatterton en tout début d'émission. Et ben voici un extrait de leur nouvel album en version live. C'est Labyrinthe sur France Inter.
Décorer le labyrinthe, le temps d'une vie, cueillir raisin de Corinthe, pêche rubis, marcher, courir, nous éreintes, là restons assis au milieu du labyrinthe, sans chercher d'issue, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle. Celle d'une autre, tu te promènes seul dans ta vie, comme si c'était celle d'une autre. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus dans le labyrinthe. Sans hâte, soit sans crainte, reste un peu ici, la porte joliment peinte, on tombera dessus, suivre une trace, une empreinte, nous pouvons ma fille, mais ce chemin qu'on emprunte, on le rend, tu sais, tu te promènes, seul dans ta vie, comme si c'était seul, c'est une autre, on se promène seul dans nos vies, comme si c'était seul des autres. Regarde là-haut, le ballon s'élève enfin, l'enfant qui chantait a défait le lien. Regarde comme c'est beau, les mains pleines ou les mains jointes, nous sommes tous perdus.
Les Feux Chatterton en live exclusif pour France Inter, c'était la semaine dernière au Studio 104, un concert que j'ai eu le plaisir de présenter et que vous pouvez réécouter en intégralité en podcast sur le site de France Inter. Tapage, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toute l'équipe, Alexis Goyer et Lila Rapoport à la préparation, Étienne Bertin à la réalisation, Selim Guéribi et Florian Dorimini, pardon, à la technique. À suivre sur Inter, un point sur l'actu, puis la radio de Lias Critic Mode qui réinvente le genre sur Instagram. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour encore plus de tapage.